Sud Radio. Qu'est-ce qui vous fait courir ?
Sylvain Augier.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans notre rendez-vous quotidien. Qu'est-ce qui vous fait courir ? Qui est la question que je pose aujourd'hui à mon ami Antoine. Comment vas-tu ?
Eh bien, je vais très bien, et toi ? Et je cours toujours.
Tu rentres d'Australie ?
Je rentre à la course, je rentre d'Australie. 40 heures d'avion ? 40 heures d'avion, Perth, Melbourne, Auckland, Tahiti, Los Angeles, Paris.
Voilà. Et un bateau en Nouvelle-Zélande.
Oui, le bateau est en Nouvelle-Zélande, mais on était parti faire un petit tournage en Australie, dans le sud et dans le sud-ouest de l'Australie.
On va parler de tes tournages, bien sûr. Il y a un livre qui vient de sortir qui s'appelle 50 ans d'élucubration. C'est vraiment un anniversaire réel, puisqu'il y a 50 ans, ta chanson Cheveux longs atteignait le sommet des hit parades. Il y a exactement 50 ans.
Voilà, ben écoute, oui, effectivement, il y avait le couplet sur les cheveux longs, il y avait toutes sortes de couplets. 50 ans après, l'éditeur Gallimard m'a proposé, ils éditent depuis longtemps mes livres de voyage, tu vois, ils éditent mes livres de voyage, mais 50 ans après, ils m'ont demandé de, tout d'un coup, de faire un ouvrage, un petit album en souvenir de cette chanson. Alors, je me suis amusé, je me suis plongé dans chacun des couplets de la chanson, et puis j'ai étudié un petit peu ce qui m'était arrivé à moi, mais surtout ce que ça représentait dans la société à l'époque. C'est-à-dire que, par exemple, c'est le moment où, pour la première fois, les enfants, les jeunes ont pu acquérir une forme d'autonomie. Avant, on les envoyait se coucher, les enfants, après Gros Nounours à la télévision. Et tout d'un coup, ça a changé, quoi. Tout d'un coup, ils partaient danser le Jerko Palladium. Il y avait la pilule, il y avait toutes sortes d'événements qui se sont passés à l'époque.
La chanson a eu un succès fou.
Ah ben, la chanson, elle a été, c'est pas été un succès, ça a été un phénomène social. C'est rentré en quelques jours, c'est rentré dans l'inconscient collectif des Français, mais ça y restera, à mon avis, toujours.
D'où la chanson de Johnny, Cheveux longs, idées courtes.
Ah ben ça, c'était la réponse de Johnny. Oui, la première fois, je raconte plein d'anecdotes, plein de rencontres, Johnny, Dali, Andy Warhol et tant d'autres. Et la Cheveux longs, c'était Johnny, première fois que j'ai rencontré, il me dit, j'adore ta chanson, d'ailleurs, regarde, j'ai une chemise à fleurs. Il avait une chemise à fleurs. Mais quelques semaines après, quand même, la chanson avait eu un tel succès qui pouvait pas rester silencieux, et que on le harcelait, on lui disait, mais tu vas pas te laisser quand même vanner comme ça par Antoine, alors il faut que tu répondes. Alors il a fait cette chanson Cheveux longs, idées courtes.
Tu as eu aussi un succès fou en Italie.
Ah ben ça a été une deuxième vie après une année complètement folle avec les élucubrations. J'ai eu la même chose, le même succès, la même folie complète, avec une chanson très différente. Pas du tout les mêmes chansons qu'en France, chansons totalement différentes, et qui a été numéro un des ventes. Et puis j'ai été pendant 5 ans, plus souvent en Italie qu'en France.
Tu restais une vedette là-bas, ou tu es toujours invité d'ailleurs ?
Oui, en Italie, il y a une émission, d'ailleurs j'ai reçu encore aujourd'hui, ça fait 17 ans que nos films, nos documentaires, nos récits de voyage passent sur la chaîne, l'équivalent de France 2, quoi. Et ça fait 17 ans, et c'est une émission qui a ceci de particulier, qu'elle a le record Guinness de la plus grande longévité pour une émission consacrée au voyage. Voilà. Et moi, ça fait 17 ans, ça fait 36 ans que l'émission existe, sous le même nom, c'est Aleno Variabile, et moi, ça fait 17 ans qu'ils passent mes films. Là, ils ont passé cette année, on a fait 6 émissions dans un portrait qui vient de passer, là, un portrait d'une heure qui vient de passer en début janvier. Et là, ils m'ont appelé pour me demander si j'avais d'autres films. Mais maintenant, il faut les monter, les films. Parce qu'on revient d'Australie, mais le film, il n'est pas monté encore.
Ouais, c'est pas ça qui manque, les films. On va en parler, bien sûr. Depuis combien de temps es-tu resté dans le showbiz ?
Eh ben, 8 ans à plein temps. J'ai fait chanteur à plein temps pendant 8 ans, avec toutes sortes de personnalités différentes. J'ai fait un Olympia en smoking. Au début, c'était plutôt la provocation. Ensuite, c'était plutôt bon enfant, un peu plus. Un peu psychédélique à un certain moment, et puis ça me plaisait la chanson, mais c'était pas suffisant pour moi. C'était pas suffisant d'aller dans les pays, voir juste le studio d'enregistrement, et puis l'aéroport, et puis l'hôtel, tu vois. J'avais envie de mieux connaître, mieux voyager, plus intelligemment, et jusqu'au jour où le bateau est arrivé, quoi. Et en fait, le bateau est arrivé, c'était seulement 3 ans après les élucubrations, et ça a été un coup de foudre tout d'un coup. Moi, j'avais rien du tout, jamais fait de bateau à voile, de bateau de plaisance, c'était pas du tout un truc dans ma famille. Et quand j'ai découvert ça, j'ai réalisé tout de suite que c'était un programme de vie, que c'était une façon non pas de fuir, mais d'ouvrir un horizon immense, quoi. Et j'ai décidé de partir voyager 5 ou 6 ans, ça fait 40 ans que ça dure.
Ça a été un hasard d'ailleurs.
Ah ben ça a été un hasard, oui, c'était le moment précis. On a toujours plein de déclics, de hasards comme ça dans la vie, et puis le tout c'est de les saisir, quoi. J'avais loué une maison dans le midi, parce que j'avais une tournée dans le midi, et puis des journées libres, donc j'avais loué une maison là-bas, à Saint-Raphaël. Puis dans l'inventaire de la maison, il y avait un petit bateau à voile qui prenait une épave, qui prenait l'eau et tout. Et un copain qui, lui, avait navigué quand il était jeune, me dit, on va essayer ce bateau. Alors, bon, ça me disait rien du tout. Et j'ai embarqué avec lui. Et non seulement ça m'a plu tout de suite, cette façon de se déplacer, mais tout de suite, j'ai réalisé que c'était pas pour se déplacer, pour tourner en rond dans une baie ou entre trois bouées, mais au contraire, pour partir au bout du monde.
C'était il y a 42 ans exactement que tu as décidé de partir, faire le tour du monde, en fait.
Oui, il y a 42 ans, il y a 42 ans, on construisait mon premier bateau. J'avais rencontré le patron d'un chantier qui avait construit, entre autres, le bateau de Bernard Moitessier. Et ça a cliqué tout de suite. Et puis l'idée est venue de construire un bateau en acier. J'avais des amis navigateurs que j'avais rencontrés. J'étais allé assister au premier grand pavois de La Rochelle. Enfin, donc, le bateau était en construction. Il a été assez rapidement construit, puisqu'au mois de juin-juillet, il était déjà prêt. Et au mois d'octobre, je prenais le large. Voilà.
Alors, vous deviez partir à plusieurs, à l'origine.
Allez, au début, quand en 69, là, lorsque j'avais raconté tout à l'heure la fois où j'ai découvert le bateau à voile, l'idée avait été de partir avec des copains. Un qui était réalisateur, l'autre qui était photographe, l'autre qui était musicien. Et puis, j'ai commencé dans la vie, les projets à plusieurs, ça fonctionne jamais, parce qu'il y en a un qui change de vie, un autre qui s'est marié, l'autre qui a une carrière qui l'empêche de partir et tout. Et tout d'un coup, j'ai réalisé que c'était seul qu'il fallait que je fasse, quoi. Et donc, je suis parti seul. Et j'ai pas regretté du tout, parce que ça m'a plu. Ça m'a plu immédiatement. Et puis, des rencontres. On en rencontre encore plus. On rencontre encore plus les gens quand on est seul que quand on est entre une bande de copains.
Tu savais de quoi tu allais vivre ? Tu avais gagné beaucoup de sous avec ta chanson ?
J'avais pas gagné beaucoup de sous avec ma chanson. Et des années après, là, c'est pas les élucubrations, c'est pas une chanson qui me rapporte grand chose. Tu vois, c'est quelques centaines d'euros par an. Et puis c'est pas du tout une rente. Par contre, je savais que ma notoriété me permettrait sans doute de faire des choses, quoi. J'imaginais soit de faire des spectacles avec ma guitare dans les escales, mais ça s'est révélé pas terrible. Mais en fait, tout de suite, j'ai été pris par la boulimie d'écrire. L'envie d'écrire et d'écrire. Et avant même que quelqu'un de prendre un contact avec un éditeur ou quoi que ce soit, j'avais déjà écrit je dirais 2000 pages. Quoi.
Alors, sur quoi ?
Sur, ben, aussi bien sur les sensations du voyage que ce que je rencontrais, que également des souvenirs de ces années folles de la chanson. Et lorsque je suis arrivé à Rio de Janeiro, après ma première vraie traversée d'océan en solitaire, c'était 8 ou 10 mois après mon départ, quoi, je suis arrivé à Rio, j'ai jeté l'ancre au Yacht Club, et il y a un gars qui est venu me dire « Je m'appelle Antoine, et j'ai reçu une lettre qui doit vous être adressée. » C'était un membre bien connu du Yacht Club. On lui avait donné une lettre adressée à Antoine. En fait, elle était pour moi. Et c'était un éditeur, Jacques Artaud, les éditions Artaud, qui me proposait d'écrire un livre. Et j'ai dit, mais moi, non, un livre, non. Je vais en écrire au moins trois.
C'est vrai?
Oui, j'ai écrit au moins trois. Donc, j'ai écrit très vite. J'ai été publié à peine 3 ans après mon départ.
D'autres livres ont suivi?
D'autres livres ont suivi. Il y a eu d'abord les récits du Tour du Monde en 3 livres, ensuite un livre pratique qui est toujours réédité régulièrement, qui s'appelle Mettre les voiles, un guide pratique, un petit peu toutes les disciplines qu'il faut aborder, connaître, pour pouvoir faire un voyage au long cours sur un voilier. Il faut être bricoleur, il faut être, enfin, toutes sortes de choses, navigateur bien sûr. Et puis, là-dessus, et puis un jour, je suis arrivé chez Gallimard, et on m'a proposé de faire un. Gallimard a proposé d'éditer pour moi un livre de photos, un album de photos. Et ça a été le début d'une autre aventure avec un succès aussi bouleversant que que les, ceux de la chanson. C'est le premier livre qui s'appelait « Il était une fois », qui a été tout de suite dans les meilleures ventes, et puis qui a ouvert à des films, les premiers films coffrets de trois, qui a eu un succès énorme, et ça a ouvert toute une autre vie, quoi. Et depuis, j'ai réalisé à peu près, je pense, 34 films, 34 documentaires.
Carrément.
Voilà. Et puis, ça a amené à des émissions de télévision, et puis à ces conférences, à toutes les conférences où je présente les films en voyage.
Alors, les conférences qui auront lieu pour Connaissance du Monde, donc du 22 février au 18 mars 2016, avec quelques dates que je signale, le 6 mars à Cahors, le 7 mars à Agen, le 8 mars à Bordeaux, mais il y aura aussi Périgueux, Brive.
Il y aura aussi Périgueux, Brive. Il y a peut-être d'autres endroits, je ne sais pas si vous mettez jusqu'à Saintes, par exemple, dans les Charentes, c'est peut-être un peu trop au nord.
Oui, je pense que oui.
Voilà. En tout cas, c'est sur le site de Connaissance du Monde, ou sur notre site à nous, c'est plus simple peut-être, vous allez sur antoine.tv, antoine.tv comme la télévision, et vous avez toutes les informations sur la tournée, et puis aussi sur tous nos voyages. Quoi, je raconte tous les mois, j'ai une nouvelle lettre, où je raconte un petit peu ce qui m'est arrivé, des réflexions, des anecdotes amusantes en général. Donc, et puis, il y en a aussi une lettre, une page Facebook, qui s'appelle simplement Les Voyages d'Antoine.
Alors, là, quel est le programme?
Suivre de près.
Quel est le programme des conférences?
Le programme des conférences, c'est un film. Ça fait 10 ans que je présente des films à Connaissance du Monde. J'ai présenté déjà les îles principales de Polynésie, et puis j'ai aussi Madagascar, mon île natale, les îles de l'océan Indien, également la Nouvelle-Calédonie. Mais là, on revient en Polynésie, on revient à mes premiers amours, mais c'est pas Tahiti, Bora Bora, etc. Ce sont toutes les îles moins connues, que j'appelle les îles lointaines. Il y a les Marquises, il y a les Tuamotu, les Australes, les Gambiers. C'est des archipels où il arrive parfois de ne rencontrer personne pendant des semaines. Ou bien quand on rencontre quelqu'un, c'est une vraie rencontre, quoi. C'est très différent des destinations touristiques ou des endroits un peu trop développés comme Tahiti même, quoi. Ce sont les archipels où je passe mon temps. Je suis très rarement à Tahiti, mais je suis pratiquement toute l'année dans ces régions-là.
Quel conseil pourrait-on donner pour avoir la vie que tu as?
Eh ben, moi j'ai un conseil simple et précis, c'est qu'on peut aller au bout du monde. On peut aller au bout du monde à condition de le faire des petits pas. Il ne s'agit pas de, si on a envie de tout changer dans sa vie, eh bien on peut faire plein de petits pas, tranquillement, aller voir juste au coin de la rue, commencer, et puis une fois qu'on a vu au coin de la rue, ben on va voir un peu plus loin, quoi. Et puis sans jamais avoir dit adieu, sans avoir cassé, sans avoir rompu avec les gens, moi j'ai eu de la chance inouïe, mais ça a été un choix, de partir au bout du monde, et en même temps j'ai gardé le contact avec les médias, avec le public, avec mes amis. Et je crois que il faut jamais dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau, quoi. Et comme disait Bernard Moitessier, dont je parlais tout à l'heure, le plus grand, je crois d'ailleurs que c'est de Confucius ou d'un autre, de quelqu'un d'autre comme ça, que le plus grand voyage commence par un petit pas, quoi.
Mais tout le monde n'a pas ta notoriété.
Mais la notoriété, c'est pas, moi, elle m'apporte des facilités dans certains domaines, mais nous sommes quelques milliers dans le cadre des gens en bateau, quoi. Il y a d'autres moyens que le bateau, mais nous sommes quelques milliers de gens dont pratiquement tous les autres sont inconnus, qui arrivent à vivre en bateau, partent voyager. Si c'est pas en bateau, c'est d'une autre façon. D'autres sans voyager, ils choisissent de voyager dans leur tête, mais c'est une question de choix de liberté, quoi. Se dire se fixer, on n'a pas de racines sous les pieds, donc moi mon idée c'est que l'être humain n'est pas fait pour être stationnaire, pour être sédentaire, voilà. Et puis c'est une question d'état d'esprit. C'est une question d'état d'esprit. Moi je peux être au bout du monde même en sortant juste dans ma rue, en allant me balader sur les bords de la Seine. J'habite au bord de la Seine quand je suis à Paris, mais ces petits pas ont fini par m'amener au bout du monde.
Mais budgétairement parlant, comment se débrouille-t-on ?
Budgétairement parlant, eh ben, y a des tas de gens, y a ceux qui ont un métier qui peuvent exercer en voyage. Il y a un gars qui est dieseliste, par exemple, mécanicien, d'autres, toutes sortes d'artisanat, il y a des gens qui écrivent, Et puis, il y a d'autres gens qui ont choisi de voyager et de revenir. Moi, je fais un petit peu ça. C'est un peu saisonnier. Moi, je reviens à peu près 3 mois par an en France pour la publication d'un livre, d'un film, pour des émissions de télévision, aller voir notre ami comme Michel Drucker et autres émissions. Et puis après, je repars, quoi. Et il y a des gens qui font ça, par exemple, des métiers. Le moniteur de ski, par exemple. Je connais un gars, il est moniteur de ski. Il vient faire sa saison, normalement, 3-4 mois en France. Et puis ensuite, il part 8 mois voyager. Et ils sont beaucoup comme ça. Il y a toutes sortes de... Bon, je citerai un exemple. Ma fille qui a 25 ans, elle est cuisinière. Elle est chef cuisinière. Elle a travaillé pas loin d'ici. Elle est au Bristol, dans un palace. Et elle peut faire une carrière dans des palaces comme ça. Et même de rester dans le même établissement très longtemps. Mais non, elle a choisi de voyager. Et c'est-à-dire qu'avec son ami, ils sont partis travailler 2 ans en Australie, dans des endroits stupéfiants, dans une petite île qu'on est allé visiter. Et puis, en plus, entre-temps, ils se sont achetés une camionnette, enfin, un petit van, là, d'occasion, et ils ont fait 40 000 km en Australie. Quoi.
Et toi, avec quel budget vis-tu ?
Moi, je ne vais pas parler de chiffres, parce que le tournage des émissions implique des dépenses qui dépassent ce dont on a besoin pour vivre, quoi.
Mais j'ai lu 25 000 euros pour les Tuamotu, 50 000 euros pour le Japon.
C'est ça, voilà. Mais pour la vie quotidienne, moi je dis toujours, bon, j'exagère un petit peu, mais c'était une femme qui voyageait dans toute l'Asie, elle a voyagé à cheval, en voiture, en moto surtout, voilà. Et elle me disait, on veut pas gagner beaucoup d'argent, ce qu'on veut, c'est avoir un salaire de secrétaire bien payé, quoi. Et puis, à partir de là, on peut, c'est tout ce qu'il faut, et le reste, on n'a pas besoin de plus, quoi.
J'ai lu que tu dégageais 2500 euros par mois, à peu près.
C'est après les réductions des frais professionnels, etc., bien sûr, hein, parce qu'il y a des dépenses qui sont professionnelles, les tournages, par exemple. Si je chiffrais avec les voyages le tournage des films, ça serait différent. Mais je crois que avec cette somme-là, on peut vivre confortablement, à condition de mettre la main à la pâte, faire des travaux soi-même sur le bateau, l'entretenir, etc., quoi faire. C'est à peu près un genre de budget. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens aussi. Moi, j'ai 72 ans, mais je suis encore très très loin de la retraite. Donc 71 ans seulement, je me dis encore très loin de la retraite. Mais il y a beaucoup de gens qui ont choisi de partir voyager, en bateau en particulier, après la retraite, quoi. Alors ils ont une petite retraite, pas forcément, ils roulent pas sur l'or, mais une fois qu'ils sont sur le bateau, ils payent plus de loyer, ils naviguent à la voile, et puis ils vivent dans des endroits tellement beaux qu'ils sont pas tentés d'aller dépenser de l'argent dans les centres commerciaux.
Dis-moi, quelle est la part de hasard qui t'a mené jusque là? Toi qui étais centralien.
Oh, beaucoup de hasard, hein. Beaucoup de hasard. Bon, ma théorie, c'est que il faut être toujours aux aguets, à guetter les hasards, toute une question de hasard et de chance, mais il faut aussi savoir saisir la chance quand elle passe, quoi. Et j'ai souvent raconté toutes sortes d'anecdotes, par exemple, un des jours où ma vie a changé totalement, j'étais étudiant, j'avais un destin assez tracé, quoique j'étais déjà un petit peu atypique, et puis j'avais une 4 chevaux, et la 4 chevaux a crevé 2 fois dans la nuit, dans Paris. On faisait des bringues aux 4 coins de Paris, et 2 fois de suite je crève, donc j'abandonne la voiture, je rentre à pied à l'école centrale, dans la maison des élèves de l'école centrale. Puis le matin, je dis, maintenant, il faut que j'aille chercher ma voiture. Et puis, il faisait un beau temps magnifique, c'était le mois de juin. J'ai dit, je vais y aller à pied. C'était très loin, mais j'ai dit, je vais le faire à pied, voilà. Et je le fais à pied, je passe le long de la Seine et je vois le Vergalan, le square du Vergalan. Et à l'époque, il y avait plein de cheveux longs, de hippies. Le mot hippie n'existait pas encore, mais des routards, mais ça n'existait pas non plus, c'était des beatniks, voilà. Des beatniks qui étaient là avec leur guitare, qui venaient de tous les coins d'Europe et tout. Et ça m'a vraiment changé la vie, parce que quelques jours ou quelques semaines plus tard, je partais en autostop. Je n'avais pas encore découvert le bateau. Et si la voiture n'avait pas crevé 2 fois dans la nuit, je ne serais peut-être jamais passé à cet endroit-là. Je n'aurais même pas su que ça existait. Tu
n'aurais même pas laissé pousser tes cheveux.
J'aurais peut-être... les cheveux, non, ils avaient poussé avant un petit peu déjà. Ils avaient poussé simplement parce que j'étais en Amérique. J'explique dans le livre, je raconte un petit peu comment chaque couplet, la chemise à fleurs, les cheveux... Le gros nounours, j'ai dit ça, et puis voilà. Et là, les cheveux, ils avaient poussé pendant que j'étais en Amérique en train de chercher une université. Parce qu'après Central, j'étais censé aller faire un PhD, un doctorat à Princeton, et j'avais visité d'autres universités. Et pendant 6 semaines, j'étais sur la route et la barbe avait poussé. Les cheveux avaient poussé. La barbe, c'est plus tard en bateau. Les cheveux avaient poussé. Et quand je suis revenu, j'avais les cheveux longs. Voilà, je m'en étais pas aperçu, puis tout d'un coup, ils étaient là.
Tu racontes dans 50 ans d'élucubration, le livre auquel tu viens de faire allusion, les chemises à fleurs aussi.
Les chemises à fleurs, ça aussi, c'est un hasard, un pur hasard, quoi. Et on ne parlait pas encore du tout du flower power, du pouvoir des fleurs, des hippies avec les fleurs dans les cheveux, ça n'existait pas encore. C'est venu 1 an, 2 ans, 3 ans après. Et moi, j'étais allé à Grenoble, avec ma compagne de l'époque, on avait pris le train, on était allé à Grenoble, parce que mes parents étaient partis en vacances, alors j'ai pris leur appartement, et en passant sur les boulevards, il y avait un magasin, je crois les Nouvelles Galeries, un truc comme ça, et qui vendait un corsage de femme, qui était mignon, avec des fleurs et tout, et ma copine me dit, t'es pas chiche, j'ai acheté ça, j'aimais déjà les fleurs, alors. Et j'ai acheté ce corsage de fille, et j'en ai fait une chemise de garçon, quoi. C'est-à-dire que sur la pochette de mon premier album, sur la pochette, la chemise que j'ai, c'était un corsage de femme acheté aux Nouvelles Galeries. Et ça a fait tout de suite, ça a impressionné tout le monde. Moi, je porte toujours des chemises à fleurs des années après.
C'est devenu ton uniforme.
Oui, c'est devenu mon uniforme. Et puis des marchands, à l'époque, aussitôt se sont mis à fabriquer des milliers de chemises à fleurs. Certains ont fait fortune, de même que certains coiffeurs... me détestaient parce qu'ils pensaient que je voulais que j'allais décourager les garçons d'aller chez eux, d'aller se faire le tour d'oreille réglementaire. Mais alors qu'au contraire, les quelques-uns ont été malins, ont compris que avoir les cheveux longs, ça nécessitait de l'entretien, quoi. Et que du coup, on allait dépenser beaucoup plus chez les coiffeurs.
À propos de cheveux longs, il y a une anecdote très drôle. C'est un contrôle fiscal que tu as subi il y a quelques années.
Ah oui, c'est assez amusant, ça. Il y a quelques années, j'avais une calvitie assez poussée. J'avais fait faire, j'avais fait faire des implants de cheveux. Et c'était un truc extraordinaire. C'est une rigolade. Ça vaut la peine. Moi, j'aurais le dessus du crâne totalement chauve, comme mon père a 35 ans. Il était chauve, quoi. Et c'est une chose extrêmement simple de faire c'est une technologie poussée, mais ça coûte un peu cher. Et j'ai un contrôle fiscal et j'avais déclaré ça comme, puisque je l'avais fait pour les films. Ça me gênait en fait dans les films tu sais ce que c'est, tu en as vu beaucoup des films, des documentaires de voyage, hein, et j'avais cette tonsure derrière, et ça me gênait parce que quand je faisais le montage, on n'utilisait jamais ces plans-là, quoi, parce que c'était pas joli, ça brillait et tout. Et du coup, j'ai fait faire ces trucs-là, et ça a été très très réussi. Et j'ai déclaré ça aux impôts comme frais professionnels. Ah non, non, c'est seulement la moitié. Ils m'ont fait un redressement de toute ma comptabilité, de tous les mes déclarations. Il y avait rien d'autre, tout était. J'ai toujours fait attention de payer mes impôts. Moi, j'ai jamais été l'artiste qui laisse partir. J'ai toujours fait ce qu'il fallait pour ça. Et là, réintégrer la moitié des dépenses de mes cheveux. Donc mes cheveux sont à moitié professionnels, à moitié personnels.
Dis-moi, quel luxe cette vie que tu as ?
Ben oui, c'est le luxe de l'espace, le luxe du temps, le luxe de l'indépendance, quoi. C'est les choses les plus importantes. Encore une fois, il n'y a pas besoin d'être... ceux qui sont riches, les gens qui sont riches en argent, ils ont en général pas le temps, parce qu'ils doivent trop se préoccuper de garder leur richesse, quoi. Moi, j'ai la chance d'avoir juste ce qu'il faut. C'est ce que Bernard Moitessier appelait la vitesse de libération. Lui, il disait de façon assez familière, il disait c'est juste la somme d'argent qu'il faut, juste les moyens qu'il faut pour pouvoir dire merde aux autres. Moi, je suis pas aussi comme ça, mais je dis que on a juste besoin d'une certaine aisance pour partir Et puis le reste, c'est, n'a pas d'importance. Quoi. Mais cette vitesse de libération, j'ai la chance de l'avoir acquise, comme ça. Donc je suis extrêmement chanceux.
Il faut un goût de la liberté incroyable aussi.
Il faut un goût de la liberté, il faut pas avoir peur de la solitude, pas avoir peur d'aller vers les autres gens aussi, mais pas avoir peur de s'en éloigner également. Et puis il faut avoir être né sous une bonne étoile également. Mais encore une fois, j'insiste, c'est pas tout d'avoir des bonnes occasions, des bonnes coïncidences et tout. Il faut aussi avoir le flair et s'accrocher à les faire fructifier, quoi, à ce qu'elles grandissent. Quoi.
Alors tu parles de la solitude. Vous vivez en couple sur le bateau avec Francette, mais tu navigues seul.
Oui, bon, Francette, elle souffre malheureusement de mal de mer. Alors les grandes traversées, c'est pas pour elle, quoi. Mais ça tombe bien parce que moi, les grandes traversées, j'adore les faire seules. Et par contre, elle me rejoint lorsque j'arrive dans un archipel comme les Tuamotu ou autre. Elle me rejoint en restant des mois ensemble et on n'est pas. Ça ne nous gêne pas du tout de rencontrer personne pendant 2 mois, par exemple. Mais les traversées, je les fais seules. Là, par contre, je vais faire la prochaine traversée avec ma fille et son ami qui sont cuisiniers là. Mais ils sont. Ils ont eu le coup de foudre pour le bateau, tout d'un coup. Alors, faire une traversée de l'océan Pacifique ensemble.
Alors, tu ne fais pas que du bateau. Tu traverses aussi le Canada d'ouest en est, de Vancouver à la Gaspésie.
Oui, ben souvent, on quitte le bateau parce qu'il y a des endroits qu'on ne veut pas atteindre. Par exemple, le Botswana, j'étais fasciné par le Botswana, les réserves naturelles d'animaux du Botswana. Et pas la question d'y aller en bateau. Hein, on ne peut pas remonter le fleuve. Des fois, je laisse le bateau, on a traversé le Canada, ou bien tel ou tel endroit. Récemment, l'année dernière, pour un prochain film, on est allé, Francette et moi, on est allé faire un grand périple en Birmanie, au Laos, en Thaïlande et aux Philippines. Voilà, ça sera un prochain film. Mais par contre, on a fait en bateau, à bord d'un bateau qu'on a pris sur place, c'est pas le catamaran, parce que le catamaran, il reste, Banana Split, il reste en Polynésie, maintenant, il reste en Pacifique, en tout cas, mais un périple dans les Antilles. J'avais pas réalisé depuis 25 ans un film sur les Antilles, sur les Caraïbes, et là, on a fait un film sur les balades dans les petites Antilles depuis Grenade jusqu'à Saint-Martin.
Alors, quand on te voit en photo, tu es dans un hamac ou assis tranquillement sur ton bateau, en fait, tu bosses comme un fou, tu travailles.
Je ne bosse pas comme un fou, je ne suis pas souvent dans un hamac parce que je trouve le hamac très inconfortable, très inconfortable, mais on est très actif. J'ai la chance d'avoir une compagne qui est aussi passionnée que moi. Donc, quand on arrive dans un pays, c'est aussitôt pour aller rencontrer des gens, pour aller visiter, voir les animaux, voir guetter. Là, on était la semaine dernière, on était dans le sud de l'Australie et on voulait absolument voir des koalas à l'état naturel. On en avait vu dans des parcs, mais en liberté totalement, quoi. Et dans une forêt, la première forêt, on arrive, ça avait tout brûlé parce qu'il y avait un très grand incendie. On était un peu désespérés. On trouve une autre forêt et là, chance inouïe, on avait un qui était juste à côté de nous. Voilà, il restait immobile, comme on aurait presque pu le toucher, quoi. Et elle a pu le photographier à loisir. Et c'était voilà. Donc on travaille dans notre bateau. Il y a un studio, un vrai studio graphique. On a nos ordinateurs. On travaille au film, au livre.
Tu fais tout montage toi-même.
Internet, une grande partie. J'ai un monteur qui fait le plus gros du travail, le plus lourd du travail. Et ensuite, quand il faut commencer à fignoler, quoi, à ciseler le film, et ben c'est moi qui m'y colle.
Antoine, c'est une PME en fait.
C'est une, ben, tu te rends compte, une PME. Quand on a commencé, il y a 20 ans, dans notre entreprise, on était deux, et aujourd'hui, on est deux.
Voilà. Ça continue.
Ça continue.
Combien de films as-tu réalisé?
34, je t'ai dit. On a 34 films, ou 33 ou 35. Et il y en a donc le dernier qui vient de sortir chez Warner là il y a quelques mois, c'est celui sur les Antilles. Celui que je présente, c'est la Polynésie, et celui qu'on a tourné, sur lequel on est en montage actuellement, c'est l'Asie du Sud-Est. Alors tu vois, des fois je sais plus dans quel continent je suis.
Et combien de livres?
Les livres, je dirais une vingtaine une vingtaine au total. Chez Gallimard, 6 ou 8, et puis d'autres quelques albums, et puis je dirais à peu près une vingtaine de livres en tout.
T'es un vrai phénomène, Antoine.
Ben écoute, c'est passionnant. C'est passionnant, et puis quand tu vois les gens qui sont... regardent ces conférences, je te dis, chaque conférence, c'est un vrai régal, quoi. C'est un vrai régal, je raconte le film en direct, et tu sais, tu en as fait toi aussi de ces conférences, hein, tu sais ce que c'est. Et moi je raconte le film en direct, en voix réelle, quoi, et sur les images et la musique. Et je m'amuse moi-même avec le film, je m'amuse à faire bien coller les images et la musique et tout. J'ai une petite anecdote comme ça. Il y a toutes sortes de gens qui viennent, tu as fait de la connaissance du monde aussi, et il y a l'après-midi en particulier, il y a souvent des personnes âgées et souvent des handicapés qui viennent. Et dans certaines villes, on voit venir des fois des non-voyants. Un non-voyant qui arrive, qui s'installe au premier rang et qui regarde le film. C'est extraordinaire. Il y en avait un qui vient me voir après, qui dit, c'est formidable, comme vous savez bien faire parler les images. Il n'avait rien vu, mais il avait tout entendu.
Dis-moi, qu'est-ce qui te plaît le plus dans la vie que tu as ?
Qu'est-ce qui me plaît le plus ? Ben, la variété de la vie, quoi, la diversité. Chaque semaine est différente de la semaine suivante. Il y a mes rencontres, il y a la beauté de filmer, le travail avec tous ces moyens techniques. On est très bien équipé en ordinateur et tout ça. On vit une époque formidable malgré tous les soucis. Et puis j'aime bien aussi, une des choses qui me font courir aussi, c'est de m'exprimer, quoi. Je réclamais la pilule en vente dans les Monoprix il y a 50 ans, et moins de deux ans après, la contraception était redevenue légale, quoi. Plus récemment, j'ai été amené à prendre la parole pour lutter contre un projet répressif concernant le travail du sexe, la prostitution, et d'essayer d'expliquer aux gens que c'est pas la répression qui améliorera quoi que ce soit, alors que j'ai vu depuis des gens comme Amnesty International prôner la même chose que moi, et malheureusement des gens entêtés veulent absolument pénaliser ce qui ne devrait pas l'être, quoi. Et donc je continue à m'exprimer là-dessus, quoi. Comme je parlais de la pilule il y a 50 ans.
Tu parles aussi de dépénaliser le cannabis.
Voilà, je pense aussi que la prostitution comme le cannabis sont vraiment deux domaines tout à fait comparables. On fait croire pour des tas de raisons bizarres que ce sont des fléaux, qu'il n'y a rien de bon dedans, alors que moi-même je fume pas, ça m'intéresse pas du tout, mais par contre... je pense que ça a une fonction sociale, qu'il y a des tas de gens, en particulier le côté médical, et puis même le côté... Dans un pays qui tolère l'alcool, je vois pas pourquoi le cannabis n'est pas aussi toléré de la même façon, quoi, de façon surveillée, raisonnable et sensible. Et pareil, je pense que la prostitution a vraiment une fonction sociale, et que c'est loin d'être qu'il y a eu une vraie panique morale qui est entretenue à ce sujet-là, et qu'il y a des problèmes de gens qui sont maltraités, mais il y a aussi une énorme quantité, la plupart des personnes qui choisissent ce métier l'ont choisi réellement et ont une importante fonction sociale, et c'est les aider, c'est pas les empêcher d'avoir des clients, c'est les aider à sortir si elles veulent s'en sortir, mais aussi leur permettre d'avoir des conditions, des droits, voilà, les mêmes droits que les autres travailleurs.
Je reviens à ta vie, Antoine. Il y a 42 ans que ça dure. C'est un rêve incroyable, non ?
Ah oui, 42 ans que ça dure, et puis c'est toujours passionnant. Enfin,
à 71 ans ?
Oui, à 71 ans. Moi, j'espère encore 20 ou 30 ans comme ça, puis après, on commencera à songer à lever le pied.
Tu ne te lasseras jamais ?
Non, je ne me lasse pas. Là, j'ai plein de projets. Plein de projets. Là, je vais faire cette traversée donc dans quelques semaines, retourner dans nos îles préférées de Polynésie. Mais on a déjà d'autres tournages, d'autres montages qui sont prévus. Un livre sur la Polynésie qui va paraître à la fin de l'année, un autre livre en préparation et des films. Donc, pas question de prendre sa retraite.
Tu es toujours en projet.
Toujours en projet. Toujours plein de choses. Toujours des étoiles dans les yeux, voilà.
Alors, qu'est-ce qui te fait courir dans la vie ?
Ben, je te dis, ce qui a pu courir, c'est la beauté du monde. Aller voir, une fois que j'ai découvert quelque chose de très très beau, je m'élance à la course encore pour aller voir ailleurs si c'est aussi bien. Et puis, voilà, en boucle et tout. Et puis ensuite, ce qui me fait courir aussi, c'est, je te disais il y a un instant, parler de choses, de sujets qui me semblent importants. Et puis, savourer la beauté du monde. Et puis, surtout, dire aux gens, regardez comme c'est beau, vous ne pensez pas que ça vaudrait la peine de faire un effort pour protéger tout ça?
Tu parlais tout à l'heure de l'étoile sous laquelle tu es né, tu y crois?
C'est une façon de parler, hein. C'est une façon de parler. Dans le midi, on dit, ceux qui ont de la chance, on ne dit pas qu'ils sont nés sous une bonne étoile, on dit qu'ils ont le cul bordé de roses. Et c'est... non, je ne crois pas aux étoiles, en particulier à l'astrologie, c'est pas du tout mon truc. Mais c'est vrai que je ne peux pas nier que j'ai la chance d'avoir eu les bonnes rencontres au bon moment. Et je connais des gens qui ont moins de chance, mais je pense que la chance, il faut la courtiser et la chercher.
Mais tu es conscient que tu as de la chance?
Ah bah évidemment, je ne vais pas dire, je suis conscient que j'ai un privilège de pouvoir avoir toutes ces belles choses. C'est pour ça que je me sens un peu motivé de les raconter avec le plus de chaleur possible.
Tu l'en racontes bien en tout cas. Merci et bonne continuation à toi.
Merci Sylvain. Écoute, un petit bonjour à tous nos amis. Venez nous voir si on passe dans votre région en conférence. Sinon, allez faire un petit tour sur notre site internet. Hein. Et puis, vous cherchez simplement Antoine sur internet et vous me trouverez. Voilà, je vous embrasse. Sylvain, je t'embrasse. À bientôt. Je te souhaite à toi aussi des bons moments et plein de succès dans l'émission.
Merci Antoine, c'est gentil. À bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Voilà, notre émission se termine sur cette note d'exotisme. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous donne rendez-vous demain avec un autre invité, bien sûr. Au revoir à toutes et à tous et bonne fin d'après-midi.